Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Comme tous les samedis, le libre journal des controverses. Plein de controverses toutes les semaines. L'intermède musical, je vais demander au patron qu'il me mette du Nini Vlame. Parce que là, bon, c'est très joli, hein, mais je préfère du Nini Vlame malgré tout. Donc voilà, ce sera pour l'intermède musical. Alors, c'était qui de l'intermède musical, la réalisation? Dites-moi. Alors. Ah, ouais, ah oui, d'accord, c'est du Saint-Michel, alors non, là, faut le garder, là, c'est du Saint-Michel, donc là, je n'ai rien dit, mais quand même, un petit peu Nini Vlame, ça me ferait plaisir, donc je la salue, bien entendu, elle est à la réalisation, le Spielberg des réalisatrices, je salue aussi mon prédécesseur de Libre Journal de Géopolitique Profonde, Nicolas Stocker, il était avec notre ami François Martin, qui a publié son dernier bouquin de la France, Le chaos dans le monde. D'ailleurs, je vous invite à vous le procurer au plus vite. Alors aujourd'hui, je suis très content de recevoir un nouveau média alternatif, Team Asile. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps de cela et j'ai trouvé excessivement intéressant. C'est la recrudescence des médias alternatifs, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Celui-ci fait vraiment partie du très haut du panier, que ce soit techniquement, sur le fond, la forme, vraiment excellentissime. Donc je voulais l'avoir aujourd'hui sur, pas Géopolitique Profonde, hein, sur Radio Courtoisie pour le coup. Et donc du coup, discuter de ces médias alternatifs. Est-ce que ces grands médias alternatifs peuvent supplanter au final les médias dits traditionnels? Est-ce que parmi eux, parmi nous même, si je puis dire, nous aurons, comme les figures américaines, des grandes figures type Joe Rogan, Tucker Carlson ou Candace Owens? On va en discuter pendant une heure et demie. N'hésitez pas, posez vos questions, plein de questions. Alors, j'ai pas de standardiste aujourd'hui parce que nous sommes encore en travaux. Voilà, Radio Courtoisie est plus en travaux que le visage d'Amanda Lear. Voilà, donc il y a des travaux partout. En plus, tiens, c'est des ouvriers polonais. Donc du coup, voilà, donc ça fait plaisir. Je suis comme si j'étais au pays un peu, si je puis dire. Voilà, donc on va parler une heure et demie avec lui. Et puis voilà, vous commentez. Mais commentez par mail, surtout par mail, s'il vous plaît. N'appelez pas. Voilà. Salut, cher Asile, Team Asile. Il faut appeler Team Asile. Salut, comment vas-tu?
Comment tu vas?
Bah, très bien, ça me fait très plaisir de te recevoir. Dis-moi, la genèse de ton média.
Bah, écoute, c'est très très simple. J'ai commencé il y a à peu près un an. J'ai fait un petit test, tu sais, avec les gens de ma région. Je me suis dit, attends, je lance un petit podcast, je regarde ce que ça donne, je regarde si je suis à l'aise et on regarde ce que ça donne, quoi. Et j'ai pris deux personnes, en fait, de ma région, un peu dans le sport et tout. Et je me suis dit, attends, le format podcast, c'est quand même un format qui plaît pas mal. Ça s'écoute en voiture, ça s'écoute plus facilement. Les gens ont un petit peu marre de la musique dans les salles de sport et quand ils font leur randonnée ou leur marche. Donc, le podcast, ça prenait bien. Et je me suis dit, pourquoi pas lancer ce format qui permet vraiment la discussion. Et je me suis dit, bah, attends, ça prend bien, tu vois. Et là, j'ai essayé de lancer mon propre podcast, d'aborder certains sujets. Certains ont marché, d'autres pas bien, mais je suis vraiment parti sur un truc de essai-erreur, tu vois. J'essaye quelques trucs, voir si ça marche, voir si ça marche pas.
C'est-à-dire que, en fait, oui, mais tu fais le podcast pourquoi? Parce que, est-ce que tu t'es dit, il n'y a pas dans les médias traditionnels ou alternatifs, j'en sais rien, ce que je peux proposer?
Exactement. Bah, je me suis dit, attends, pourquoi il y a des podcasts qui existent, des médias qui existent aussi, et il y a certaines personnes qui sont pas invités et on les entend jamais, on voit pas leur point de vue. Pourquoi pas moi pour faire ce travail-là?
D'accord.
C'est là que je me suis dit, bah attends, c'est très difficile de commencer à zéro, en fait. C'est très difficile de commencer à zéro quand tu commences une chaîne YouTube à zéro abonné. C'est extrêmement compliqué. Donc moi, je pars de là.
Quand tu parles de personnes qui ne sont pas invitées, ouais. Tu penses à qui alors? Souvent les gens vont me dire Soral, Dieudonné, bon, ok, mais est-ce que tu penses peut-être à d'autres personnes qui justement, elles ont des avis, elles ont une expertise et elles ne sont pas invitées peut-être parce que elles sont, je sais pas moi, sulfureuses par rapport au traditionnel ou parce qu'elles ont un avis différent?
Oui, exactement. Bah, même, bah, tu as parlé d'Alain Soral, effectivement. Là, ça, c'était mon premier invité qui a vraiment fait du bruit, en fait. Parce que moi, Alain Soral, je le connaissais un petit peu, pas autant que les gens. Et je me suis dit, attends, pourquoi on le diabolise autant? Pourquoi? Enfin, moi, je l'écoutais, j'ai écouté des émissions, je ne comprenais pas. Et quand je ne comprends pas, je vais dans le fond du truc et j'essaie de voir
D'accord.
pourquoi ça ne va pas. Et quand j'écoute le mec parler, quand j'écoute bah, Dieudonné, tu l'as cité aussi, je l'ai eu aussi sur le média. Et c'est vrai que ça fait plaisir de les entendre, mais il y a d'autres gens aussi. Il y a d'autres gens moins connus, des lambda qu'on n'entend pas trop, qui ont des difficultés, qui passent. Voilà, l'autre jour, j'ai vu une de tes vidéos sur l'affaire Palmade, par exemple. Par exemple, ces victimes-là ou des personnes qui sont concernées par des faits qui les touchent. Tu disais dans la vidéo que, bah, en fait, on n'entend plus parler de ces gens-là. On voit une petite affaire, on voit que ça passe un peu à la trappe. Il sort au bout de 4 mois ou un truc comme ça. Mais les victimes, les gens qui ont quelque chose à dire et de raconter un peu leur vision des choses à eux, bah, on ne les voit pas dans les médias. Et c'est pour ça que je prenais des inconnus, je prenais des gens qui avaient une histoire à raconter, et en face, bah, aussi des personnalités. L'idée, c'est aussi d'avoir des personnalités comme Dieudonné, comme Soral. Dernièrement, j'ai invité Rachid Nekaz, Youssef Indy aussi. Donc c'est vrai que c'est des visions qui sont intéressantes, et je trouvais que bah, je ne les voyais pas à la télé. Moi qui ai grandi avec la télé et que je ne suis pas du tout dans ce média-là, enfin dans ce domaine-là de base. J'y connaissais rien. Donc j'ai vraiment commencé à zéro. Et petit à petit, bah, je fais mon petit bout de chemin et je vois qu'il y a d'autres visions possibles, d'autres visions qui sont aussi à considérer. Donc j'invite ces personnes-là,
Ben,
tout simplement.
c'est vrai que dans les grands médias dits traditionnels, et ça, quand on était enfant, adolescent, etc., on ne le voyait pas trop. Mais en tout cas, aujourd'hui, on le comprend bien. On a essentiellement des gens qui se ressemblent beaucoup. Alors, quand je dis qu'ils se ressemblent, ce n'est pas forcément physiquement, mais en tout cas, dans l'idéologie, on sent que tous ont une forme d'idéologie dominante. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Bah, c'est ça, c'est que moi j'ai découvert un petit peu le divertissement avec Touche pas à mon poste à l'époque, où ça perçait pas du tout. J'étais dans une période où moi j'étais étudiant. Quand t'es étudiant, t'as un peu de temps. En plus, je venais de louper ma première année, donc j'avais du temps le soir. C'est une émission qui commençait hyper tard. Et je découvrais un petit peu la télé comme ça, et je voyais que, ben, comme tu disais, il y a quand même une récurrence, quoi. Toujours la même vision, toujours le même truc. Mais quand on est jeune, la vingtaine, même un peu moins, on comprend pas trop ce truc-là. On regarde ce qui nous est proposé, on ne s'intéresse même pas à ce qui peut se passer ailleurs, tout simplement. Et c'est vrai que si on regarde trop ce genre d'émission, et toujours la même chose à la télé, au mainstream, ils ont après un avantage qui est vraiment conséquent, et je m'en rends compte maintenant. Que ce soit au niveau du budget, que ce soit au niveau des équipes de production, que ce soit un accès privilégié aux invités, c'est des difficultés que moi je peux avoir. Ils ont une force qu'on n'a pas. Mais c'est vrai que quand tu regardes, à qui ça appartient, dans quel groupe ils sont. Tu vois finalement que la vision qu'ils ont, c'est normal. Ils sont obligés de suivre quelque chose, alors que nous, pas. Donc c'est pour ça que je me mets en face de ça et je me dis comment je peux faire pour avoir une qualité de production, une qualité d'émission, de proposer quelque chose. On ne peut pas venir avec un bon message, avec une qualité qui ne va pas, parce que les gens ne vont pas regarder. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais je pense que oui, les spectateurs ont une exigence. Quand tu lances une
Bah,
vidéo,
oui, non, mais t'as totalement raison. C'est pour ça que, bon, moi je travaille, les gens de Courtoisie le savent, moi je travaille et à Courtoisie et à Géopolitique Profonde. Et
exactement.
donc, du coup, les gens qui m'écoutent le savent. Géopolitique Profonde, on a changé de plateau. Bon, on avait un plateau qui était sympathique. Maintenant, on a un plateau encore supérieur.
J'ai
Et
vu,
tu as
super.
parlé d'une émission que j'ai faite sur Pierre Palmade, c'est une émission du midi et demi, qui ne sera plus de ce. Enfin. Il sera dans ce format-là, mais techniquement meilleur parce qu'elle sera très vite en plateau. Et en effet, nos médias, et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de travaux sur Radio Courtoisie actuellement, c'est que les gens, nous ne réussirons pas à supplanter je vais pas dire le mainstream parce qu'à Radio Courtoisie, il faut parler essentiellement français. On va pas supplanter les médias de grand chemin. Tant que nous n'aurons pas mis les moyens financiers pour avoir de la technique optimale, et c'est-à-dire des plateaux, c'est-à-dire comme toi tu as un décor, un micro pro, etc. quoi. Ça c'est excessivement important pour le coup, et ça il faut que les gens le comprennent.
Bien sûr, mais les gens le, le, te sanctionne en fait finalement. Le spectateur te sanctionne entre guillemets parce que quand tu cliques sur une vidéo qui n'est pas qualitative, même si ton message est bon, même si les invités sont sympas, quand tu vois des trucs faits un petit peu en visio avec une qualité de son médiocre, etc., tu ne peux pas écouter ça dans ta voiture. T'imagines, toi, tu fais 4 heures de route, le podcast, il fait 2h30, tu le mets, c'est impossible de rouler avec ça, avec un bruit ambiant, avec un truc qui t'enlève un petit peu l'envie de regarder ça. Alors qu'à la télé, la qualité est bien là, tu as des lumières, c'est divertissant, tu as envie de passer du temps à regarder ce truc-là. Et c'est là où c'est important, parce que tu as un message qui est vrai mais mal produit. Pour moi, c'est un message invisible.
C'est-à-dire que, donc du coup, toi, tu as mis l'accent sur la technique et les moyens techniques. En commençant de zéro, comment tu as fait ?
Bah alors moi, j'avais mon métier de vidéaste. C'est-à-dire que ça me facilite un petit peu puisque j'avais un petit peu de matos déjà. Mais c'est vrai que quand quelqu'un commence vraiment de zéro, et il y a beaucoup de gens qui s'en rendent compte. Tu sais, je vois sur Internet, sur YouTube, je vois pas mal de podcasts, de petites vidéos qui sortent par-ci, par-là. Mais ça prend fin très vite parce qu'en fait, on se rend compte que quand tu fais les calculs des coûts, est-ce que ça te rapporte, bah t'es largement, mais vraiment très largement négatif. Tu ne peux pas avoir un matériel pro, des caméras pro, des micros, louer un studio, ramener ton invité, faire un tournage, poster sur YouTube et tout ça, faire le montage. Parce que le montage, c'est quelque chose, c'est une compétence qui est importante que moi j'ai. Mais ceux qui ne l'ont pas, ils sont obligés de payer. J'avais essayé une fois de déléguer un petit peu cette partie-là. Ça coûte extrêmement cher. Et surtout, la qualité n'est pas toujours ce que moi j'attends. Donc forcément, quand tu additionnes tous ces coûts et que derrière, tu regardes un petit peu les vues que ça fait, tu vois que tu fais que d'injecter, tu fais que de mettre de l'argent, tu fais que de louer des studios, à faire des podcasts un petit peu avec tout le monde, tourner des vidéos. Mais tu vois vite que en fait, ça te coûte 1 000, 1 500 par épisode. Et au final, ça ne rapporte rien du tout.
Tim Hassil, voilà, je le répète, Tim Hassil sur YouTube. Et j'ai voulu aussi l'avoir parce que d'abord, il faut le mettre en avant, première des choses. Et deuxième des choses, j'ai beaucoup de jeunes qui viennent me voir aussi, qui me disent « Oui, comment on fait pour faire comme toi ?» Voilà, il y a un exemple. Voilà, Tim Hassil. Voilà, il met de l'argent. C'est pas simple, hein. Il y a de l'argent à mettre. Il y a beaucoup de travail. Surtout, toi, tu fais du montage. Moi, je fais du direct, donc il y a beaucoup moins de travail. Le montage, c'est énormément de travail. Comment tu arrives à t'en sortir ?
J'y mets tout mon énergie, tout mon temps. Je fais que ça. Le métier de vidéaste fait que je suis à mon compte. Et le média est monétisé, heureusement. C'est pour ça que des fois, quand j'ai eu quelques petites reproches, tu sais, sur la monétisation, sur la censure, sur les codes des réseaux à respecter. Malheureusement, tu ne peux pas faire autrement. Tu vois, par exemple, tu m'as parlé de Dieudonné tout à l'heure. Quand tu invites Dieudonné, je le laisse parler comme il veut. Sauf que si je mets la vidéo brute telle qu'elle, la vidéo, elle va me rapporter pas loin de 0 €, tu vois. C'est impossible de laisser une vidéo comme ça sur YouTube sans respecter les codes de YouTube. Parce que sinon, les jeunes qui nous regardent et qui veulent faire un média, vous allez vite vous rendre compte que déjà, la monétisation des réseaux est très compliquée à avoir. Une fois que vous l'avez, elle est très, très fragile. Et si en plus, vous n'avez pas une grosse communauté qui vous soutient derrière avec des financements, avec autres, où vous êtes financé par personne, vous prenez vite fin. Ça décourage très, très vite.
Mais c'est là aussi, tu vois, où tu mets un point important. C'est que, en effet, il y a la monétisation, mais les gens vont te dire « Ouais, mais d'accord, mais du coup, tu fais de la censure. »
Exactement. Exactement, mais sauf que c'est pas vraiment de la censure parce que je le laisse parler. Je pourrais couper, c'est facile. Je pourrais couper, j'ai tous les rushs de base, donc je peux vraiment couper, faire. Il y a pas mal de gens qui ont fait des podcasts et qu'après ils se sont plaints parce qu'ils se sont dit ah non mais attends j'avais pas dit ça comme ça. Vous avez changé l'ordre des mots, vous avez changé l'ordre des choses, mm-hmm. Vous avez coupé des grosses parties que j'ai dit. C'est pas cool. Mais sauf qu'une fois que tu l'as fait, il se passe plus rien. Moi je coupe rien. C'est-à-dire que je coupe rien, mais par contre je respecte le code des réseaux. Pour justement que ça saute pas. Une fois, je l'ai pas fait avec Alain Soral sur une vidéo sur TikTok. Elle a été supprimée.
Sur TikTok, ça. Je ne conseille pas de mettre Alain Soral.
Je te jure que j'ai réussi à en faire passer. J'ai fait 2 podcasts pour l'instant avec Alain Soral, avec à peu près une 40aine de vidéos par podcast, des shorts. Il y en a qu'une qui a sauté.
Mais
sur à peu près 80.
Dis-moi, tiens, cette fascination qu'Alain Soral, moi, je l'ai découverte. Parce que je ne connaissais pas vraiment Alain Soral, je le dis très sincèrement. Il se trouve que j'ai été le premier à le réinterviewer. Vraiment, hein, en 2023, plus personne ne l'interviewait, il ne passait plus nulle part. Et j'organisais, enfin, j'étais l'animateur des 2 jours d'un, pas d'un festival, mais du retour de Capitaine Juvin Brunet. Donc, et c'était l'invité mystère. Et donc, j'ai interviewé Alain Soral. Je ne savais pas un quart d'heure avant que je devais l'interviewer. Je ne le connais. Pour moi, Alain Soral, c'était le gars qui était chez
Ouais,
Ardisson, etc. Tu vois,
c'est
et
mon
qui a fait,
choix.
voilà, qui a fait un film sur comment draguer les filles, voilà. Et j'ai fait, ah ben, bah, et j'ai discuté, on a discuté ensemble pendant 1 heure. On a fait une interview ensemble. C'était sous un chapiteau. Il y avait 600 personnes. C'était assez cool. Et c'est après, c'est passé sur YouTube. Et je me dis, putain, il est quand même pas mal ce gars-là, il est quand même pas mauvais en fait ce gars-là. Et puis après, je l'ai réinvité à Géopolitique Profonde avec Ray Noir et bah, Juvin Brunet aussi. Et je sais pas,
Fabrice
depuis
Divisio aussi, je crois,
ça.
j'avais vu.
Pardon?
J'avais vu Fabrice Divisio aussi, chez toi.
Et Fabrice Divisio, mais ça c'est bien après. Et je sais
Ouais.
pas, ça, tout ça, ça a pris dingue. Et j'ai découvert que les moins de 35 ans. Et c'est ça que je voulais te poser la question. T'as moins de 35 ans, je pense.
Oui.
Eh ben, les moins de 35 ans étaient formés et fascinés par Alain Soral. Vraiment, hein. Et moi, j'ai plus de 35 ans. Alors, pourquoi ce personnage fascine autant cette jeunesse?
Alors c'est vrai que quand j'ai posté ma première vidéo, je ne m'attendais pas du tout à ça. Tu sais, je poste le truc. Actuellement, je crois qu'on approche les 800 000 vues. Donc je me dis, mais attends, bah, qui regarde ça? Je regarde les chiffres et effectivement, les 25-34 ans, il y en a plein. Même des proches, même des gens. Tu sais, moi, je suis musulman de confession. On m'a même arrêté une fois à la mosquée. On m'a dit, hey, mais c'est toi et tout. Ta vidéo avec Alain Soral, machin. Je dis, bah ouais, les gars. Tu sais, je m'attendais à qu'on m'en veuille quelque part. Parce que je découvre Alain Soral par après, comme toi. Sa carrière au FN, etc., etc. Je découvre tout ça après avoir fait le podcast. Mais ce que je comprends d'Alain Soral, c'est que vraiment, c'est quelqu'un qui dit les choses comme il les pense, de façon brutale, de façon que, justement, les médias principaux, comme tu l'as dit tout à l'heure, on ne voit pas ça. On ne voit pas cette vérité, on ne voit pas cette vérité brute. Et je pense que c'est ça qui fascine. Que quand il parle des relations hommes-femmes, quand il parle de politique, quand il parle de ses analyses de la vie qu'on vit tous, eh ben, je pense que ça plaît. Et à chaque fois que je l'ai vu, c'était toujours ça.
Oui,
Ces relations.
parce que c'est le premier qui a parlé des relations hommes-femmes. Je crois. Moi, je pensais que c'était Zemmour, et en fait, non. Le livre Premier sexe de Zemmour, bon, je vais pas dire que c'est un plagiat, mais c'est
C'est
une
Alain Zemmour.
inspiration d'Alain Soral.
Alain Soral, c'est ce qu'il dit, ouais. Exactement. Mais justement, c'est sur cette question-là, il y en a beaucoup qui l'ont découvert comme moi sur cette émission C'est mon choix, d'Evelyne Thomas.
Oui, c'est vrai.
Effectivement, quand il vient là et puis il parle de sa vision des hommes, de l'homme envers la femme et du respect qu'il a pour elle, la manière dont il en parle, la manière dont il analyse les relations, même aujourd'hui, hein, bien plus tard. Quand il analyse aujourd'hui ce qui se passe avec les jeunes, la manière dont ils se draguent, ils ont leur manière de communiquer, les jeunes entre eux, eh ben, elle est pertinente. On peut ne pas être d'accord. Il y a toujours quelqu'un qui est d'accord avec vous de toute façon. Mais on peut pas nier que ça existe.
Est-ce que pour toi, les médias, les tiens, nôtres, on va dire,
Ouais.
ont dorénavant une influence par rapport aux grands médias traditionnels?
Bien sûr, moi je trouve que les invités qu'on a pu proposer dans notre chaîne et toi sur la tienne, on a plus de liberté déjà. On a plus de liberté, ça c'est indéniable. Il y a qui nous dit, voilà, lui non, lui on fait pas, on évite de parler de ce sujet-là. Ce sujet, on l'a vu avec l'affaire Epstein par exemple. J'étais l'un des premiers à poster un podcast 2 jours après la sortie du truc. Ça a forcément pris parce que les médias principaux, comme tu disais tout à l'heure, il n'y avait rien. On n'en parlait pas, c'était vraiment un truc, il ne faut pas du tout en parler. Sauf que quand tu peux en parler,
Ben
je trouve que c'est un peu.
justement, est-ce que pour la première fois, ce n'est pas justement les médias tels que le tien, par exemple, qui ont imposé de parler de l'affaire Epstein aux médias traditionnels qui ne voulaient pas en parler parce que il y a des Français, il y a Jacques Lang, etc.
Bien sûr, ça les a poussés, forcément, ça les a poussés. Ça les a poussés, que ce soit les médias comme les nôtres ou les lives un peu comme Dieudonné a fait. Ça les a forcément poussés à faire semblant, au moins. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu des petites vidéos de 10-15 minutes pour faire semblant que, bon, allez, on va quand même en parler un petit peu. On va quand même rester un peu en surface, pas donner de nom, on va pas donner les faits. Et c'est là que j'aime bien Twitter, enfin X maintenant, c'est que l'information, elle y est vraiment. Il faut vérifier. Ça aussi, c'est un petit peu le, ça, c'est le point faible qu'on peut citer. C'est la rigueur un petit peu parfois. Mais c'est vrai que sur X ou sur les médias comme les nôtres, c'est là où même des trucs qu'on n'a pas envie d'en parler, nous, on en parle, on le dit. Et c'est vrai que notre crédibilité, elle dépend un peu de tout ça. Parce que si on n'en parle pas parce qu'on a peur de froisser quelqu'un, on a peur de se mettre quelqu'un à dos, ça va pas trop le faire. Tu vois, comme tu as dit, l'affaire française, il y en a beaucoup. Bah, Idriss Aberkane, par exemple, c'est un mec que je regarde pas mal. Et il est là-dedans aussi. Et c'est vrai que lui, ben, il se lance dedans. J'ai bientôt d'autres vidéos qui vont sortir avec d'autres invités. Et c'est très important d'avoir ces gars-là parce que c'est une vision qui est différente pas du tout mainstream, principal.
Mais justement, tu vois, moi, je pense que cette affaire Epstein est peut-être aussi un basculement. Enfin, je ne parle pas de l'affaire en elle-même, je parle du traitement médiatique, c'est peut-être un basculement. Parce que voilà, mails sortent le vendredi soir en France.
C'est ça.
Samedi, TF1, France Télé, tout ça, rien. Dimanche, TF1, France Télé, rien. Lundi, rien. Et pendant 3 jours, il y a un vrombissement sur les X, sur YouTube, des médias Radio Courtoisie, Team Asile, Géopolitique Profonde, Tocsin, etc. Et du coup, les gens mettent une pression sur les médias traditionnels qui, à partir de mardi, parle de Jacques Lang, parle d'Epstein, qui il est, ses réseaux. Enfin, ils commencent à le faire. Et là, pendant une semaine, les médias traditionnels, parce que pression populaire, en parlent. Et ça, pour le coup, je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est vraiment la première fois. Je ne pensais pas. Moi, je pensais que les médias n'allaient pas du tout en parler. Et ça démontre quelque chose, en fait.
Bien sûr, entre la puissance de X et des réseaux sociaux et des contenus qu'on a proposés, ça gêne aussi pas mal de monde, hein, parce que c'est vrai qu'on a une distribution qui est faite par les réseaux sociaux. Tu sais, les algorithmes, c'est très important, que ce soit YouTube, TikTok, Instagram, Meta et tout. En tout cas, moi, pour mon cas personnel, je ne suis pas du tout... Shadowban ou ce genre de choses par ce truc-là. Quand je poste, en général, ça fait des vues, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, etc. Donc, c'est vrai que ça plaît pas mal. Mais ça plaît pas mal aux gens, mais moins aux rédactions et aux médias principaux, comme on a dit. Les algorithmes font que... J'ai déjà vu, je ne sais plus qui c'était, mais au gouvernement, ça se plaignait que, par exemple, il y a certaines idées, comme sur Epstein et tout, qui étaient justement très répandues sur les réseaux à cause des algorithmes. Mais sauf que les algorithmes, elles sont faites dès que ça plaît, c'est tout. Quand c'est vu, quand c'est regardé, quand ça intéresse les gens, ça fait des vues. Donc, c'est là aussi que quand il y a une info comme ça qui sort, et quand je poste des shorts ou une vidéo YouTube, et dès qu'elle est proposée aux gens, les gens cliquent, c'est vraiment s'attaquer à la vérité. Quand tu regardes à la télé, si l'émission elle est pas bonne, on peut pas la zapper. Elle fait pas de vues, ou en tout cas, il n'y a pas assez de spectateurs, les gens regardent, mais sans vraiment regarder, comme le disait Dieudonné. C'est voilà, on reste sur quelque chose qui nous est un petit peu imposé. Sur YouTube, TikTok ou Instagram, tu fais vraiment le choix de regarder ce que tu veux. C'est pour ça que quand tu mets une vidéo et qu'elle fait des vues, c'est que le spectateur l'a vraiment choisi. Elle a vraiment choisi, a vraiment décidé de la regarder. C'est très important parce que nous, on n'est pas imposé. On est uniquement là par intérêt. Intérêt réel des gens.
Est-ce que justement, Internet devient une opinion publique puissante ?
Bah, Internet, c'est là où tu as le plus de liberté, je pense. C'est là où tu as le plus de liberté. C'est
oui,
là
mais,
où
oui mais est-ce que l'on crée l'opinion publique ? Parce que moi, je vois une chose, c'est que la télé, encore en France, hein, je parle en France, la télé est encore, je ne vais pas dire la source principale, mais le média qui influence une élection, par exemple. Voilà. C'est-à-dire que le média télé, radio, parce qu'il y a la marque, parce qu'il y a les groupes, etc., même la presse, au fond, même si elle n'est pas ultra lue, influence encore l'élection. C'est-à-dire que s'il y a un candidat qui fait 100% Internet, il ne fera pas 20% au présidentiel.
Bah exactement. Après, Ils ont cette puissance, parce que c'est vrai que là, tu parlais de l'affaire Epstein, il y a des gens, quand je leur en parlais, ils disaient, ben attends, non, mais ça n'existe pas parce que la télé n'en a pas parlé. C'est un truc qui m'a choqué sur le coup. Je me dis, mais attends, comment ça se fait que cette personne-là n'est même pas au courant que ça vient de sortir? Tu as dit que ça sortait vendredi. Pendant une semaine, il y avait des gens qui n'étaient pas au courant. Parce que ils ont pas X, ils n'ont pas les réseaux, ils ne regardent pas ce qui se passe. Donc, c'est important que nous, on fasse le job à ce niveau-là. Mais la télé, ça reste quand même beau, très, très puissant pour l'instant. Ça reste quand même très puissant, mais on a notre place.
Mais
On a notre place.
qu'est-ce qui manque? Voilà, regarde. Par exemple, je vais te prendre un exemple. Pendant les présidentielles américaines, Trump a été invité par Fox News pour le grand débat. Et il a dit, non, non, moi je vais pas à Fox News pour le grand débat, j'en ai rien à fiche. Je vais chez Joe Rogan faire une émission. Qu'est-ce qui manque pour que, je ne sais pas moi, un candidat à 15-20% aux présidentielles françaises dise « Non, non, je ne vais pas à TF1, du JT du TF1, je vais chez Tim Acil.
Alors, ce qui manque, ça existe déjà ce que tu dis. Par exemple, Nicolas Sarkozy, il n'est pas allé sur TF1, il n'est pas allé sur France 2, il est allé chez Légende.
» C'est
Donc
vrai.
aujourd'hui, Légende, c'est très puissant parce que Légende, c'est le premier média. Mais Légende, c'est très puissant parce que tu vois, ils ont mis en place quelque chose que forcément j'ai du mal à faire. C'est de poster déjà 3 fois par semaine. C'est essayer une fois de tourner 3 vidéos. Je dis à ceux qui nous regardent, c'est extrêmement compliqué d'avoir une équipe comme ils ont. D'avoir cette puissance et cette récurrence de 3 fois par semaine, d'avoir autant d'abonnés, autant de visibilité, ce qui pousse en fait les gens aujourd'hui, les politiques ou les autres, les entreprises, les politiques et ceux qui ont quelque chose à raconter. Que ce soit les grands acteurs, les artistes, les anciens ministres, Édouard Philippe, Nicolas Sarkozy, c'est des gens qui sont allés chez Légende. Parce qu'aujourd'hui, Légende, c'est plus regardé en termes de politique ou autre que la télé. La télé n'a plus la confiance du spectateur. Si on regarde quelque chose à la télé, on regarde, mais on se dit, attends, non, je me méfie, parce que là, je vais vérifier quand même l'info. C'est forcément, soit c'est pas vrai, soit ils ont une ligne éditoriale, soit ils ont une obligation d'en parler. C'est pour le divertissement, la télé, ça reste encore très fort. Le divertissement, voilà, les gens, ils ont aussi besoin de divertissement. Donc la télé, ça reste quand même principal, parce que les moyens qu'ils mettent, c'est difficilement égalable. Mais si tu regardes bien sur YouTube, il y a aussi beaucoup de divertissement qui égale YouTube. Quand tu regardes les vues, même un petit média comme le mien, quand je regarde sur un mois, je fais 6-7 millions de vues sur YouTube, tout cumulé, entre les shorts et les vidéos longues, bah, je me dis ça va. Parce que sur une soirée, une émission sur M6, ils font 1 million par exemple.
C'est énorme, 6-7 millions de vues.
Bah oui, mais c'est entre les shorts et les vidéos longues. Le jour
Mais
où.
quand même, 6-7 millions, c'est énorme.
C'est pas mal. C'est pas mal. Mais dis-toi que par exemple, Alain Soral, tout seul, quand il arrive sur TikTok et je poste les vidéos, au cumulé, il fait 7 millions sur TikTok. Donc, tu vois que l'idée, en fait, l'algorithme fait que ce mec-là plaît, l'algorithme le propose, les gens valident et adhèrent, et c'est répandu, c'est viral. Voilà. Sur YouTube, c'est pareil. Sur YouTube, quand tu regardes certaines vidéos, certaines propositions, bah, la vidéo de Nicolas Sarkozy, Charles Gave aussi, que j'ai vu sur Légende, c'est des vidéos qui font toujours plus d'un million, voire 2 millions de vues. Bah, Dieudonné, sur Légende, quand
Oui,
il est
mais
passé.
regarde, Légende, c'est quand même quelqu'un qui vient des médias traditionnels.
Bien
C'est
sûr.
pas quelqu'un comme nous, voilà, qui n'en faisons pas partie.
Bah parce que après, je peux pas lui en vouloir d'avoir une carrière qui est
Non, mais
bien
bien
plus longue
sûr,
que la
mais est-ce
mienne.
que, bien sûr, mais est-ce que ça veut dire que le grand public d'Internet a quand même besoin de s'identifier par rapport à quelqu'un qui vient du traditionnel?
Ben, si tu regardes bien dans les commentaires ou sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Guillaume Pley. Ils disent, mais attends, pourquoi il est aussi lisse? Pourquoi ses questions, elles sont lisses? Pourquoi il donne jamais d'avis? Il est trop fade, etc., etc. Mais il a créé un écosystème qu'il faut absolument prendre en compte, l'écosystème où les gens, ils y arrivent et ils n'ont pas peur d'y aller. Ils n'ont pas peur d'y aller, c'est une safe place, on va dire, pour parler anglais, même si les auditeurs l'aiment pas. Mais c'est un système qu'il a mis en place parce que c'est un système qui fonctionne. Même si il est. D'ailleurs, la première année, ils ont galéré. Ça, c'est des chiffres qui sont sortis par la suite. Au bout de la première année, ils ont failli fermer le truc. Parce que, comme je t'avais dit, ça coûte beaucoup trop cher. La production, la régie, le studio, tout ce qui va avec, ça coûte beaucoup trop cher. Mais après, ils ont les investisseurs que nous, on n'a pas. C'est là où ça fait la différence.
Mais Tu sais, moi, je fais aussi des reportages au terrain et justement, j'allais voir les gens au hasard en leur demandant qu'est-ce que, comment vous vous informez. Alors, l'ancienne génération, en tout cas à Paris, m'a dit qu'elle ne s'informait pas par YouTube. Les jeunes m'expliquaient qu'ils s'informaient justement par les réseaux. Et en grattant un peu, je me disais, mais quel réseau, quelle personnalité, quel média, etc. Et eux m'ont tous dit, tous les jeunes, hein, je dis bien, hein, de Parisiens, alors peut-être c'est différent ailleurs, mais bon, en tout cas à Paris, c'est comme ça, ils m'ont tous parlé de Hugo Décrypte. C'est-à-dire que, et j'en suis revenu en me disant, mais quand même, ça veut dire que si ces jeunes regardent tous Hugo Décrypte, est-ce que ça ne veut pas dire que dans le fond, ils sont pas comme leurs parents ou grands-parents, c'est-à-dire très système en fait. Parce que Hugo Décrypte, c'est le système, c'est Sciences Po, c'est Macron, etc. quoi.
C'est le système parce que Hugo Décrypte, longue carrière déjà, pote de Squeezie, mainstream à mort. Il est dans les bons plans, on va dire. Parce que forcément, quand tu traînes avec le premier YouTuber de France, le deuxième du coup après Thibaut InShape, mais quand tu traînes avec ces gens-là, automatiquement, ils ont commencé à une certaine période où c'était beaucoup plus, pas facile, mais il y avait beaucoup moins de monde sur YouTube. Que ce soit Squeezie, que ce soit Hugo Décrypte, que ce soit Thibaut InShape, que ce soit les autres, c'est des gens qui ont commencé à une période où c'était plus facile sur YouTube. Et ils ont fait leur bout de chemin. C'est des gens qui n'ont jamais lâché. Et effectivement, quand tu grossis, tu as les partenariats, tu as les marques, tu as l'argent aussi, faut pas l'oublier, qui fait que tu es obligé de rester dans un certain cadre. Hugo Décrypte ne peut pas inviter Alain Soral. C'est pas possible.
C'est vrai.
Les jeunes le veulent, il peut pas. Il peut pas parce qu'Alain Soral, il va venir dans son média, il va foutre un bronx et ça va pas. Son média va perdre en partenariat, même s'il peut gagner en crédibilité en disant ah ben attends, on a donné la parole quand même à quelqu'un qui est un peu extrême, qui est trop brutal, trop etc. Eh ben Hugo Décrypte ne veut pas l'avoir. Ben, par contre, il peut avoir Ken Kojandi, il peut avoir Mister V, des gens qui sont hyper mainstream aussi, des gros youtubeurs, des gros trucs,
Mais
même quand.
qu'est-ce qui fait que quand t'as moins de 25 ans, normalement quand t'as moins de 25 ans, t'es un rebelle. Qu'est-ce qui fait que, en fin de compte, bah oui, quand même.
C'est vrai.
Voilà, qu'est-ce qui fait que en fait, t'es comme le gars de mai 68, tu vas regarder Kenvi, enfin je sais pas, voilà, le gars là qui, enfin c'est un chanteur, ouais c'est ça. Franchement, et Hugo Décrypte qui va t'expliquer de manière centriste la vie quoi. Enfin je sais pas, je trouve ça dingue. Est-ce que c'est
Parce
pas,
qu'il est.
dis-moi, Asile, est-ce que c'est pas quand même préoccupant pour la jeunesse française, la future, en fait, enfin le futur, en fait.
Bien sûr, parce que Hugo Décrypte, il propose aussi une forme qui plaît aux jeunes. C'est là où je me bats aussi à faire cette forme-là. J'aurais pu faire Alain Soral à distance, tu vois. J'aurais pu faire à distance, j'aurais pu dire, viens, on se fait un truc en visio. De toute façon, les fans et ceux qui aiment ce contenu-là auraient regardé de toute façon. Mais moi, entre guillemets, je m'embête à aller en face du mec, à proposer cette qualité de podcast qui ressemble à Légende, qui ressemble à Le Crayon ou ce genre de choses. Pour que justement ceux qui ne connaissent pas le mec puissent regarder. Et j'ai attiré des jeunes. Quand je vois par exemple que des jeunes ont dit ah, mais c'est sympa, Rachid Nekaz, je connaissais pas, c'est sympa, Youssef Indy, je connaissais pas du tout ce mec, il est hyper intelligent, hyper sympa. Bah, parce que vous avez jamais pris le temps de regarder. Parce que Youssef, quand il fait une vidéo, bah, en général, il se met face cam, tu vois, il fait des contenus qui sont bien, mais ça parle aux initiés. Alors que moi, j'essaie de parler au grand public. Et des fois, on m'en veut de ça. Non, mais attends, tu fais ça pour les vues, tu fais ça pour. Mais non, je fais pas ça pour les vues. Je fais ça pour que l'idée, elle passe au plus grand nombre.
C'est-à-dire que toi, justement, tu as vu des types comme Hugo Décrypte, ils font des millions de vues, et tu t'es dit, avec un message différent, je vais utiliser leur méthode.
Exactement. Leur méthode, elle est très simple. La qualité, la production. La 4K. Tu sais, quand tu regardes sur YouTube, maintenant, les gens sont hyper regardants. J'ai juste une règle, c'est que je prends pas les gens pour des cons. C'est-à-dire que les gens savent que quand tu fais un échange WhatsApp avec un mec, dès qu'il clique sur la vidéo, allez, je te dirais, allez, la première minute. À la première minute, ils savent s'ils vont regarder la vidéo longtemps ou ils vont la zapper tout de suite. tout de suite réglé. Et quand tu regardes Hugo Décrypt, Squeezie, Le Crayon, Légende, eh ben, tu sais que tu sais d'avance que la qualité sera là, que ça ne va pas te faire mal aux oreilles, que tout sera bien. Le message, on verra. Mais en tout cas, de la miniature jusqu'à l'introduction, jusqu'au changement de caméra, de changement de plan et la qualité du contenu, la qualité sonore du contenu, tu sais que tout y sera. Donc moi, je me suis dit, attends, pourquoi pas prendre des gens qu'on n'entend pas et pour que le message soit entendu par le plus grand nombre. Je vise le plus grand nombre et je ne veux pas me mettre dans une case d'échange fermé. Je veux absolument que... OK, il y a un Soral sur la chaîne, mais il y a aussi un humoriste. Il y a aussi... Il y a aussi un intellectuel, il y a aussi un mec qui fait du sport, il y a aussi un mec, tu vois. Et ben j'essaie justement de proposer une vision. Ça plaît ou ça plaît pas, là, c'est aux spectateurs de juger. Mais en général, je vois que je touche tout le monde. Et le but, c'est ça.
Tu n'as pas peur, justement, de te mainstreamer, si je puis dire, entre guillemets, voilà.
Si on ne veut pas se mainstreamer, c'est effectivement, c'est la tentation, ça. La tentation des finances et de l'argent et de ce qu'on peut te proposer. Quand tu regardes ce que les gens touchent, les youtubeurs, etc., quand tu sais que ça s'appelle des OP, donc des opérations commerciales, quand tu vois que c'est des chèques de 50, 80, 120 000 qui sont proposés aux gros youtubeurs, je parle, bah, tu te dis, bon, peut-être que pour une vidéo, une OP, 80 000, je vais peut-être éviter de parler de certains sujets. Mais c'est l'argent qui te fait tenir, tu vois. Et moi, je le refuse. C'est pour ça que je ne veux pas me mainstreamer. Et d'où j'ai besoin bah justement des spectateurs. Je fais une cagnotte, j'ai créé une entreprise justement qui vend des petites choses que je vais présenter bientôt pour que les personnes puissent nous soutenir financièrement en ayant quelque chose en échange, pour que ce soit un échange de bons procédés. Et je prends cet argent, je l'injecte dans le média, tout simplement.
Allez découvrir Team Asile sur YouTube, vraiment excellent YouTubeur, vraiment. On va continuer cette discussion. Le Bobino, on va le faire un peu en avance, tu veux ? Allez, le Bobino.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Merci à vous d'être toujours si nombreux. Continuez à soutenir Radio Courtoisie. C'est vous les patrons de Radio Courtoisie. C'est vous qui, je vais pas dire créer la programmation, mais c'est vous qui nous permettez d'être libres et indépendants. Si nous avions des annonceurs, eh bien, c'est eux qui choisiraient les thématiques, qui choisiraient les invités, qui invitaient, qui ne pas invitaient. Ce n'est pas le cas ici à Radio Courtoisie. Nous invitons tout le monde. Mais pour cela, il faut avoir votre soutien, donc continuez à nous soutenir. Je suis avec Team Asile, youtubeur, j'aime pas trop ce mot youtubeur, je veux dire même journaliste, hein, si je puis dire. Voilà, il a une chaîne YouTube, vous pourrez le découvrir voilà, sur Team Asile, allez-y, nombreux. Oui, en effet, il faut qu'on soit d'ailleurs les plus nombreux possibles, je pense. Parce que souvent, on me dit, oui, nous, on nous dit, oui, mais faites la concurrence à TVL, je sais pas quoi. Non, il faut être les plus nombreux possibles. Je veux dire, en face, ils sont les plus nombreux possibles. Faut se dire les choses.
Mais parce que c'est pas en restant marginal que ça va marcher. C'est pas en se fermant à certaines personnes, c'est pas en se fermant aux jeunes, c'est pas en se fermant... Je propose une certaine vision parce que j'ai mon podcast aussi, où c'est moi qui prends la parole. Et je propose une vision qui va contre en fait tous les mœurs qu'on a aujourd'hui, cette société un petit peu fragile où on travaille, on rentre à la maison, métro, boulot, dodo, ça c'est ce qu'on connaît. Mais aujourd'hui, je déconseille aux jeunes de plein de choses, de boire, de fumer, etc. Vraiment d'avoir un cercle sain et une vie saine. Mais derrière, je veux pas rester marginal parce que les invités que je ramène, ils sont aussi dans la même vague que moi.
Tu pourrais t'interdire justement des invités ou pas ?
À partir du moment où ça insulte, oui. Genre, par exemple, Mila.
Tu sais,
qui maintenant en Suisse, elle arrachait les drapeaux palestiniens et puis avant ça, elle insultait l'islam. Ça, c'est ma limite.
D'accord.
Mais tant que si t'es contre, moi qui est musulman, si t'es contre l'islam et que tu n'aimes pas, c'est-à-dire que tu n'aimes pas ou tu ne comprends pas, pour moi, c'est pas un problème. On peut discuter.
Alors j'ai eu les apostats de l'islam, je les ai mis d'ailleurs face à Divisio. Moi je suis pas très apostat tout ça, j'aime pas quand on blasphème. D'ailleurs je suis un peu contre la loi du blasphème, bon ça c'est mon avis.
Je les ai eus
face à Divisio et ils ont fait péter les plombs à notre ami Divisio qui a quitté qui a quitté le studio à l'époque. C'était assez comique d'ailleurs. Et ça a fait des vues. Ça a créé des vues d'ailleurs pour le coup.
Ça a créé des vues.
Voilà, ça a créé des vues. Mais oui, tu as totalement raison. Nous-mêmes, voilà, on a investi dans un nouveau studio dans Paris Centre avec du matériel vraiment de pointe et tout. Parce que.
Oh, je le vois, c'est incroyable.
T'as vu, hein? Parce que les gens. Oui, et d'ailleurs, les formats, je dis tous les formats seront très vite. Parce qu'en fait, c'est très très dur à mettre en place un studio. C'est très très dur.
Bah oui.
On a mis 4 mois pour faire un studio, hein.
Mais oui, mais les gens le voient pas ça souvent.
C'est vrai.
Les gens le voient pas que ce soit avoir une cohérence, avoir une fiabilité, une régularité et en plus la qualité technique. C'est ce qu'il faut pour justement pour ne pas rester marginal.
C'est clair.
Sinon, tu restes marginal, tu fais une petite chaîne YouTube, tu fais des petites visios et puis il y a 1000 personnes qui regardent. Oui, bon bah ça reste anecdotique.
Mais je vais dire rien qu'une table, une grande table, hein, c'est menuisier machin, ça a pris 2 mois.
Et tu vois, c'est ça. Entre mettre ne serait-ce que les écrans, les câbles, les trucs, tout brancher pour que tout fonctionne, il faut du monde, il faut des moyens, il faut de l'argent. Et c'est pas. Et en plus, les gens, même si tu as tout ça, s'ils ne s'attachent pas à toi petit à petit, moi je pense vraiment que c'est l'individu qui va être suivi et qui va être aimé par les gens. Donc si tu n'as pas tout ça, les gens ne vont pas s'identifier à toi, ne vont pas comprendre ta vision. Et en plus, si t'as pas de qualité, si t'as pas de truc, et que s'ils regardent, déjà ça les démange de quitter la vidéo ou de quitter l'émission, de ne plus la regarder, t'es mal parti, je pense.
Non, mais c'est vrai. Et tout le reste, les caméras, le son. Moi, je me rappelle, on a fait inauguration début janvier. Ah, ouais, votre lumière, c'est pas assez. Le son. Et les gens, alors que les gens, ils te connaissent depuis des années. Ils t'ont vu, je sais pas combien de centaines d'émissions. Eh ben, il y en a une, ils ont pas aimé parce que techniquement, ils nous ont mis la tête comme ça. Hein. Véridique, mais vraiment. Hein. Et les gens, ça continue comme ça, on va se désabonner. Ah putain,
tu vois ?
C'est dur, hein, c'est très dur.
Mais bien sûr que c'est dur parce que quand tu es dans ce truc-là et que tu as un média alternatif déjà qui est compliqué à gérer. Parce que c'est financièrement, on n'a pas un groupe, un truc qui est derrière et qui injecte, tu vois ? Tant que tu n'as pas c'est autant de d'argent que les autres, toi, tu fais attention. En tout cas, moi, je fais attention. Tu sais que j'ai toujours ce stress avant un tournage de dire, attends, si là, il y a un truc qui ne marche pas, si là, il y a un truc qui... L'invité, je ne l'ai plus. Tu vois, j'ai galéré à avoir le mec. Tu vois, que tu me parlais d'Alain Soral ou de Dieudo. Dieudo, bah, si je rate mon interview, bah, je perds mon argent, je perds mon temps, je perds mon truc. Et à la fin, il n'y a aucun contenu qui sort. Il suffit d'un câble qui ne fonctionne pas ou d'un son qui ne va pas, une caméra qui fait le focus ailleurs que sur la tête du mec. Et ça part en... Bah, je publie pas, quoi.
Mais du coup, toi, t'es un pur entrepreneur, quoi.
Tout seul. C'est ça qui est dur. C'est que t'es tout seul. Non seulement tu es créateur, puisque c'est toi qui dois faire les questions, c'est toi qui dois faire l'émission. Tu es le mec de la technique. Donc tu dois gérer tes caméras, tu dois gérer tes sons, tu dois gérer ton matériel, tu dois gérer toute cette production pendant. Et t'es aussi le mec qui fait la post-prod. Donc une fois que t'as fait tout ça, tu vas prendre tous tes fichiers, tous tes trucs. Donc, tout ça, ça coûte de l'argent. Et les disques durs, j'invite les gens à regarder. Un disque dur, c'est quasiment 400 balles. Donc, et ça, tu dois en avoir plein parce que tu dois faire des copies. Et derrière, tu fais ton montage. Donc, tu passes tout ton temps à faire ce montage, à le poster. Et je peux te dire que quand tu postes et que ça fait 1000 vues ou 10 000 vues ou 5 000 vues, alors que tu as mis toute ta force là-dedans, ça représente quasiment du 0 €.
C'est vrai. Voilà. Ah mais c'est vrai, ça faut dire la chose, parce que le côté, faut dire aussi aux gens, le 1 € 1000 vues, ça c'est, je sais pas où c'est sorti ça, mais c'est pas vrai.
Non, c'est pas vrai du tout, c'est pas vrai du tout. T'as les 1 €, les 1000 vues sur TikTok par exemple, maintenant ils ont mis un système de récompenses supplémentaires, il faut les choper, etc. Mais sur TikTok en général, quand vous regardez une vidéo qui a fait 1 million, en vues éligibles, il y a à peu près la moitié, je caricature hein, pour que les gens comprennent, sur 1 million de vues que vous voyez visuellement, il n'y en a que 500 000 qui sont éligibles. Et si sur les 500 000, il n'y a pas les récompenses supplémentaires qui sont activées, on est à entre 8 et 15 centimes les 1000 vues. Si vous faites 15 centimes fois 500 000, enfin 500, pardon, c'est vite fait. Hein. J'ai une vidéo d'Alain Soral qui a fait 1,5 million, j'ai pris 80 euros sur TikTok. Pour que les gens comprennent que la TikTok monnaie n'existe pas.
C'est sûr, non mais parce que... Il faut que, pour les jeunes qui nous écoutent, qui comprennent que, en fait, c'est pas si simple. Parce que moi, j'ai beaucoup de jeunes qui viennent me voir, me disent « Ouais, je veux faire comme toi, machin et tout. » Mais en fait, c'est énormément de travail, d'investissement personnel, financier, etc. De rigueur aussi. Et je remarque que les jeunes, aujourd'hui, n'ont pas énormément de rigueur. Et voilà, et peut-être abandonnent très vite. C'est aussi voilà, beaucoup de rigueur. Et c'est pas voilà, c'est pas voilà, on se filme, c'est pas Nabila quoi, si je puis dire.
Ah non, mais ça, en fait c'est le modèle qui a été vendu depuis des années, cette histoire de télé-réalité, cette histoire de tu vas à la télé-réalité, tu fais une émission, tu prends plein d'abonnés, tu reviens, derrière tu vends des brosses à dents, des trucs, des lacets, enfin de tout et n'importe quoi pour pouvoir prendre de l'argent des opérations et derrière bah t'es tranquille quoi. T'es influenceur, tu vis la belle vie à Dubaï et puis ça n'existe plus. Mais depuis bien longtemps, les gens ne le comprennent peut-être pas, mais il faut absolument le dire, c'est qu'un influenceur qui a aujourd'hui, comme moi, 50 000 abonnés sur Instagram, 50 000 sur YouTube et quasiment, je ne sais plus, je crois que je suis à 90 000 sur TikTok, ça gagne de l'argent, oui, mais on est loin de ce que ça aurait pu rapporter début 2020. C'est plus le même argent, c'est plus la même monétisation. Les marques, quand on fait un média comme les nôtres, je vais dire, les marques ne sont pas forcément motivées à venir sponsoriser. Il faut le savoir. Une fille qui, par exemple, fait du maquillage du matin au soir et qui se met devant son miroir et raconte des anecdotes, elle a mille fois plus de chances de choper des 2000, des 3000 balles par vidéo uniquement en opération, c'est-à-dire en sponsor, que moi. Donc que toi aussi, d'ailleurs.
Mais ça faut expliquer aux gens, parce que aux jeunes... Le problème, c'est que le système fait croire certaines choses, et donc peut-être parce que le système se dit oui, si les jeunes ils préfèrent être sur YouTube, TikTok, etc., ça nous fera pas la révolution demain, et donc du coup voilà, on va les abrutir, et donc on va en faire essentiellement des influenceurs parce qu'on n'a pas besoin d'autre chose, on a juste besoin de 10 000 mecs qui cogitent, voilà, parmi nos enfants, parce que c'est ça aussi le système. Promeut ses propres enfants. Il faut regarder qui, par exemple, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans les grandes entreprises ou dans la grande administration, en France, hein, lorsque l'on regarde le pédigré des uns et des autres, ils sont les enfants des élites. Voilà.
Bien sûr.
Faut dire les choses. Et les autres, eh bien, le système promeut Nabila et les filles qui se maquillent, et pour les garçons, les mecs là qui font de la muscu, etc. Et donc du coup, on a toute une génération qui veut faire ça, alors que ça, c'est pas la vie, ça c'est l'échec.
Bien sûr, mais c'est parce que surtout, ça ne fonctionne pas. C'est pas parce que vous voyez votre influenceur préféré, votre streamer, pour lui ça marche, que pour vous ça va marcher. Ça ne fonctionne pas. C'est un truc qui n'existe pas, c'est fantasmé. C'est comme les réseaux sociaux où les filles vont vendre des photos, des trucs un peu plus dénudés, etc. Il y a beaucoup de filles qui pensent que, je travaille pour 1002, 1003, 1004, je vais me mettre sur ces réseaux-là, je vais peut-être faire le double. Donc, en fait, je vais doubler mon salaire. Mais quand vous regardez les statistiques, il n'y a que 1% de toute la plateforme, parmi des milliers de créatrices de contenu, qui gagnent à peu près un salaire. En général, sinon, ça tourne même pas à 100 euros. C'est pour les influenceurs, c'est pareil. Quand tu vas sur Twitch, quand tu vas sur YouTube, quand tu vas sur tu regardes des podcasts, il faut savoir que ces gens-là ne gagnent pas d'argent. Il y en a plein qui ne gagnent pas d'argent. Et même ceux qui essaient de faire de la promotion de leur contenu sur TikTok le font à côté d'un travail ou font ça à côté. Ils essayent et puis ça tient pas longtemps parce que ça ne fonctionne pas. Ceux qui font de la muscu, comme tu as dit, ça fonctionne. Mais tu sais, dès que tu commences, t'as un peu d'abonnés, les marques sont contentes. Donc forcément, on va te sponsoriser un petit peu, tu gagnes un peu d'argent, mais tu es l'élite. Les gens que vous voyez sur Instagram, c'est une toute petite partie de l'iceberg. Vraiment une très petite.
Mais ça, il faut le dire, parce que le grand problème, c'est qu'on va avoir une nouvelle génération qui ne sera pas productive dans ce qui est vraiment important, qui n'apportera pas de plus-value, parce que là, on est sur la je sais pas moi, on a un bouleversement technique avec l'intelligence artificielle, le monde avance, et nous, on va avoir toute une jeunesse qui voudra gagner de l'argent facile avec OnlyFans. Alors, c'est une plateforme où les filles se dénudent. Voilà, j'ai reçu d'ailleurs sur Géopolitique Profonde une fille de 20 ans qui faisait ça avec son manager.
Au départ, c'était même pas que ça. Hein.
Oui, à la base, c'est même pas ça. À la base, c'est même pas ça.
À la base, c'est juste, par exemple, si moi, je voulais avoir OnlyFans, bah, je mettrais juste des contenus payants dessus et les gens payent pour s'abonner, pour voir un petit peu plus que ce qui est proposé. Il y a des combattants UFC, par exemple, qui ont des OnlyFans. Parce qu'ils proposent des techniques, ils proposent des contenus un peu inédits, exclusifs, contre rémunération. De base, c'était ça. Sauf que l'humain faisant, eh ben, tu te dis, bah, attends, si je suis une fille lambda qui a 40 000 abonnés sur Instagram ou sur TikTok, il y a des gens qui m'aiment, souvent des hommes. Si je vends un peu plus avec mon OnlyFans, des contenus un peu privés, des contenus un peu sur mesure, si je peux dire ça comme ça, ça, je vais gagner de l'argent. Et c'est comme ça que ça a marché, et que c'est comme ça que les filles se sont dit, bah attends, s'il y a la fameuse Sophie Rain, tu sais, c'est la numéro 1 de toute cette plateforme.
Qui a pris 80 millions de dollars, je crois, ou 100 millions de dollars.
Et exactement, elle fait plus de salaire, elle fait plus d'argent que LeBron James, qui est l'un des plus grands basketteurs de son temps. Donc les filles se disent, bah attends, si elle fait 80 millions, c'est possible qu'en m'y mettant, je fasse 3000 euros. C'est pas possible, je suis pas si moche que ça. Et non, en fait, ça marche pas. C'est pas une question de moche ou pas. C'est une question de si t'es personne, tu vas sur ces réseaux, tu seras toujours personne. Mais t'auras perdu ta dignité sur le chemin.
Bah c'est clair. Et surtout que cette fille, bon, peut-être qu'elle a été un peu tirée au sort, si je puis dire, peut-être par l'algorithme, j'en sais rien, ou peut-être qu'elle a su mieux sur un instant T. Parce que des fois, le succès ne repose sur rien. Hein. Vous avez, sur un instant T, vous avez fait quelque chose un peu différent, ou je sais pas quoi. Tiens, Nabila, rappelle-toi, Nabila, bon, elle a dit oui, le shampoing, je sais plus ce exactement. Et, oui. En fait, elle a capitalisé sur une phrase qu'elle a dit à ce moment-là. Est-ce que si ce jour-là elle n'avait pas dit cette phrase, peut-être qu'elle serait retombée dans l'anonymat complet, en fait.
Quand tu regardes la carrière de Nabila, vu que tu as pris l'exemple, c'est quand même quelqu'un qui a commencé à 18 ans dans une émission qui s'appelait, je crois, L'amour est aveugle ou un truc comme ça.
Il y a 15 ans d'ailleurs, je crois, en plus.
Ouais, c'est, elle avait 18 ans, elle, donc je sais pas quand c'était, mais je me souviens qu'elle était hyper jeune. Et elle était déjà venue avec un corps totalement détruit par la chirurgie, à même pas 20 ans. Elle enchaînait comme ça jusqu'à ces émissions-là où ça a percé un petit peu plus, où les spectateurs étaient là pour regarder. Et donc, elle a fait une carrière là-dessus. Mais si tu regardes bien, elle en est sortie. C'est-à-dire qu'elle est passée de, comme tu as dit, l'histoire de shampoing à des défilés pour Jean-Paul Gaultier. Donc, pour une fille qui venait d'en bas, elle a quand même... Mais des Nabila, il n'y en a qu'une.
Mais oui, c'est ça. C'est le coup de bol. C'est... C'est comme quand tu joues à Euromillion, tu gagnes. Mais tous ceux qui jouent à Euromillion ne deviendront pas millionnaires.
Mais c'est tout simplement. C'est exactement
mais
ça.
Mais il faut le dire. Il faut le dire. Moi, je vois trop de jeunes qui vont gâcher leur vie, qui vont devenir peut-être SDF ou toxicomane, j'en sais rien, parce que le système leur a inculqué des valeurs inverses, on va dire.
Mais c'est tout est fait pour. Tout est fait pour, c'est-à-dire que tu sois à l'école, que tu sois à la jeunesse, que tu sois la manière dont on te parle. Ouais, mais non, mais tu peux, si tu ne te sens pas bien en tant que mec, tu peux te transformer en fille. Les filles peuvent se transformer en mec. Et puis on peut. Vraiment, c'est une société qui est faite, surtout en France, c'est ça qui me désole un petit peu, parce que moi j'aime la France et j'aimais bien les valeurs d'avant. Et c'est ce que j'essaie de dire aux jeunes. C'est que ce qu'on vous dit dans les médias mainstream, quand on a dit tout à l'heure, c'est pas la vérité, les réseaux non plus. C'est pas parce que tu vas danser sur TikTok que tu vas forcément percer, que c'est forcément la bonne chose et que bah, tu vas devenir riche. C'est pas la richesse.
C'est clair. Et puis, moi, je vais te dire une chose. Quand je fais des reportages, je le fais, bon, je vais parfois en province, mais pas souvent, mais je les fais plutôt à Paris. Je ne peux plus interviewer un jeune. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'un jeune de moins de 25 ans n'a pas aujourd'hui, 100%, hein, je dis bien 100% quasiment, non allez, on va dire 95%, on va dire 90, des cas, n'ont pas le vocabulaire pour exprimer. C'est-à-dire que pour avoir une minute d'entretien, je dois poser 5 questions minimum. Non mais vraiment, hein. Et contrairement à ce que peut-être les auditeurs pensent, ce n'est pas les profils qu'ils croient. C'est Dupont-Durand aussi. Voilà. C'est tout le monde. Voilà, un jeune de moins de 25 ans à 95% du temps. Sauf si peut-être je vais faire un truc, je sais pas, moi, à côté d'une grande école ou je sais rien. Et encore. Je n'ai pas... Voilà, je n'ai pas de réponse, j'ai des réponses, ah oui, non, ah je sais pas, j'ai des choses comme ça.
Parce que c'est pas facile, en fait aujourd'hui les jeunes quand tu regardes bien, ils sont dans un domaine, ils sont dans une sorte de mondialisation, ils sont dans une sorte de, tout le monde se ressemble. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as un peu sous-entendu, mais c'est vrai que si tu regardes, que ce soit les Français de souche on va dire, les Maghrébins, les Africains, tout le monde est pareil. Tout le monde est sur le même truc, ils ont tous le même vocabulaire, le même langage, les mêmes sources d'inspiration finalement. Parce qu'ils scrollent tous sur la même application, ils regardent tous les mêmes vidéos.
Alors dis-nous scroller, ce que ça veut dire. C'est-à-dire que voilà,
scroller, pardon, c'est quand tu remontes vers le haut, en fait, quand vous êtes sur TikTok, pour passer d'une vidéo à l'autre, il faut scroller. Donc en fait, il faut prendre son pouce et d'aller de bas en haut pour passer à la vidéo suivante. Voilà. Instagram a fait le même système, parce que c'est un système qui est viral et addictif. Il y a des études qui l'ont prouvé que c'est hyper addictif. C'est comme un peu à la roulette quand tu dis encore un coup, encore une vidéo, je vais remonter encore une petite fois, et ben ça fait que tu perds une heure, tu t'es même pas rendu compte que t'as consommé des dizaines et des dizaines et des dizaines de contenus, d'idées différentes, de danse, de tout et n'importe quoi, des recettes, et t'as perdu une heure de ton temps que t'aurais pu peut-être consacrer à la lecture, à une activité vraiment productive, et non, tu as scrollé. Voilà, c'est pour que... Eh bien, Instagram a pris le même système. Meta, Facebook, Instagram, ils ont pris le système de TikTok. TikTok, pareil. TikTok, c'est un système de... Tu dois scroller, quoi. C'est la... Voilà. Et tu passes vers le haut et tu dois consommer du contenu. YouTube a aussi... C'est aussi inspiré de ce truc-là. Il a appelé ça YouTube Short. Voilà. Et pareil, tu peux scroller vers le haut. Et en fait, l'algorithme comprend par quoi tu es intéressé. Si tu es intéressé par le divertissement, les filles qui dansent et tout, bah, t'en auras plein. Parce que l'algorithme comprend que tu passes du temps sur ces vidéos-là, donc il va t'en proposer d'autres. Si vous allez voir, en fait, ça marche même par période. Si par période, là, en ce moment, si vous êtes intéressé par l'affaire Epstein, si vous regardez une, deux, trois vidéos sur l'affaire Epstein et que vous restez dessus, et que soit vous likez, soit vous commentez, soit vous faites un truc comme ça, l'algorithme comprend très, très rapidement que vous êtes intéressé par ça. Donc, les jours qui viennent, vous allez bouffer beaucoup d'Epstein. Et c'est ce qui dérange le gouvernement aussi.
Bien sûr, mais ce qui est important aussi de dire, voilà, pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est que voilà, vous avez un fils, enfin une fille, j'en sais rien, un petit un, ou un petit fils, voilà, qui regarde une, deux vidéos de gens qui dansent. Toute la journée, il aura des propositions de vidéos de gens qui dansent. Et il faut se dire les choses, regarder toute la journée des vidéos de gens qui dansent, bah, souvent mal, ça ne sert à rien à la vie, en fait. Hein. Ça n'apporte aucune plus-value pour le cerveau de votre enfant. Ou, voilà. Ça ne apporte rien. Et donc, du coup, même si cet enfant va à l'école, etc., qu'il fasse ses devoirs, eh ben, il sera quand même, on va dire... ça ne va pas lui permettre d'aller faire une bonne université, une grande école ou une école de commerce, j'en sais rien, quoi. Il ne va pas réussir dans la vie en faisant ça. Et malheureusement, de plus en plus de jeunes, quel que soit le milieu social, parce que, moi je parle de ma génération, je suis de 81, notre génération avons failli en tant que parents, il faut dire les choses, et ben, on a des jeunes qui sont... J'ai vu une étude que, pour la première fois dans l'histoire de France, le QI des nouvelles générations est inférieur à la génération précédente. C'est quand même pas rien.
C'est lié au niveau scolaire aussi, si tu regardes
c'est
bien.
C'est lié au niveau scolaire, bien sûr, mais c'est aussi lié à la presse scolaire. C'est-à-dire, les parents qui disent « Ah ben non, oui, ok, va, regarde la télé, regarde, tiens, prends ta tablette ou je sais pas, tu vois, regarde ça, pour pas m'emmerder en gros, excusez-moi ouais. du langage. » Et c'est lié aussi, moi, nos parents, ils nous surveillaient, nos parents, ça rigolait pas, quoi.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Tu vois? Il y avait beaucoup de moyens aussi. Si tu regardes bien, on n'avait pas forcément de téléphone. Moi, je suis plus des années 90, on va dire, 92. On n'avait pas forcément de téléphone pour aller appeler un copain. Il fallait sortir. Il fallait aller devant chez lui, sonner. Il y a sa mère qui sort sa tête. Tu lui dis, est-ce que machin peut descendre? On va jouer et tout. On a grandi dans cette génération et on a fait la transition vers les écrans. Où maintenant, même les gamins, ils ont un iPhone, ils ont un truc et ils s'envoient des SMS. Est-ce qu'on se retrouve D'ailleurs, pour élargir un petit peu, même le harcèlement aujourd'hui, ça se passe aussi sur les réseaux, ça se passe aussi par téléphone. Alors qu'à l'époque, le harcèlement, il s'arrêtait à 4h, 5h à la sortie d'école. Donc nous, on a eu cette transition. La génération après nous, ils étaient directement dans les téléphones. On ne peut pas forcément leur enlever le téléphone, mais il faut essayer de proposer une valorisation autre que ce qu'on voit, comme on disait tout à l'heure, dans les grands médias.
C'est vrai.
Et quand tu regardes les émissions qui font beaucoup plus d'audience, comme Cyril Hanouna ou ce genre d'émission, c'est sûr que si tu regardes cette émission-là, c'est pas là où tu vas trouver un maximum de pistes pour aller vers la lecture, pour aller vers des connaissances un peu plus pointues.
Alors, j'ai un commentaire d'auditeur. L'actuel pouvoir politique ne se sert-il pas de quelques petits artistes et médias subversifs marginaux comme soupapes de sécurité pour donner une impression de liberté, de tolérance, lesquels sont supprimés, interdits quand ils prennent de l'importance?
Alors, il y en a effectivement, j'ai déjà entendu, c'est un petit peu... c'est une théorie, on verra si elle se vérifie avec moi par exemple. je vais vers mes 100 000 abonnés sur YouTube, je verrai bien si on me cause problème ou pas. Mais effectivement... Ce que les gens doivent savoir absolument, c'est qu'on peut toujours parler, on peut toujours faire des vidéos, on peut toujours les poster, on peut toujours avancer. Mais effectivement, quand vous êtes condamné un peu à la Dieudo ou à Alain Soral, c'est sûr que les réseaux sociaux, pour vous, c'est mort. Là, il n'y a plus rien. Par contre, quand tu regardes Idriss Aberkane, avec plus d'un million, je crois qu'il a 1,5 million maintenant d'abonnés sur YouTube, il continue à proposer du contenu. Mais vu que c'est droit et qu'il propose une certaine rectitude, qui fait qu'il ne dépasse pas les bornes, ça va. Parce qu'il a quand même interviewé Didier Raoult, il a quand même eu Pierre Jovanovic, il a quand même eu des gens qui ne prenaient pas de gants, quoi. Mais son média ne bouge pas. Donc non, les médias existent. Après, c'est financièrement qu'en général, les médias, ils arrêtent d'exister. Parce qu'une fois que tu n'as plus les moyens de produire une émission, de continuer à travailler et de proposer du contenu indépendant, tu t'arrêtes de toi-même. Hein. Tu sais, ils n'ont pas besoin de te mettre la pression. Hein. C'est pas...
C'est vrai.
Ça va ? Il n'y a pas besoin de...
Bonjour, ne craignez-vous pas la censure qui risque de s'accentuer sur les réseaux sociaux ?
La censure, elle existe déjà. Il faut respecter les codes parce que quand vous postez une vidéo sur les réseaux sociaux, comme YouTube ou comme... Il faut censurer des mots qui sont violents. Alors effectivement, quand vous êtes Hugo Décrypte et que vous avez sûrement des relations dans YouTube et que vous êtes dans des petits papiers de gens de YouTube, c'est sûr que vous n'avez pas besoin de censurer beaucoup de mots qui renvoient soit à la sexualité, soit à la violence, soit à des mots problématiques. Tant que vous y êtes, de toute façon, c'est facile à voir. Si vous cliquez sur une vidéo sur votre Smart TV et que la première chose que vous voyez, c'est une pub, c'est que vous savez que la vidéo, elle est monétisée, tout simplement. Malgré tout ce que le mec dit, si vous prenez des pubs tout au long de la vidéo... La vidéo est monétisée et elle n'est pas du tout shadowban ou bloquée par les réseaux.
Il y a aussi, si certains nous écoutent et qui veulent faire ce que fait Timacile, l'algorithme regarde aussi autour de vous. Savoir si il y a un studio, un plateau, si c'est ou peut-être si c'est décoré de manière à que c'est pas dans votre chambre en gros. Il regarde aussi votre expression du visage. Vous êtes énervé, pas énervé, le ton de votre voix. Il n'y a pas que les mots. Hein. Il y a aussi les mots. Il écoute, il regarde si la miniature est faite de manière professionnelle. Plus vous êtes professionnel, il faut dire aussi une chose, plus aussi vous êtes professionnel, plus l'algorithme voit qu'il y a un plateau télé, il y a des moyens de ceci, de cela, moins vous serez censuré. Parce que souvent, les gens me disent « Ah, Mike, t'es pas censuré, t'es sûrement de l'opposition contrôlée. » Bon, ok.
Ouais, moi aussi. Tu vois voilà, on a les mêmes trucs.
Voilà. Donc, bah, je leur dis, en fait, c'est pas compliqué. Quand je faisais de la visio, on a été censuré. Quand on est passé en plateau, nous n'avons plus jamais eu de censure. C'est dingue, hein ?
Quand tu dis censure, c'est-à-dire que tu, t'es ton nombre de vues...
De strike, ou de... strike.
Ah, tu te faisais striker.
Voilà, quand j'étais en visio, j'ai eu des strikes. Un de temps en temps, parce que je comprenais aussi un peu l'algorithme. Tu vois, j'avais l'expérience, je comprenais l'algorithme. Mais il m'arrivait, ça arrivait. Bon. Depuis qu'on est en plateau, ça n'arrive plus. Et j'ai des fois des mecs qui disent des dingueries. Hein. Mais ça n'arrive plus. Voilà. Parce que YouTube, malgré tout, a besoin de gens comme nous parce qu'il y a un public et que malgré tout, YouTube gagne de l'argent sur nos pommes. Hein, faut dire les choses.
Bien sûr. Non, bien sûr. L'objectif des réseaux, faut pas l'oublier, c'est de vous prendre votre temps. Si YouTube n'arrive pas à vous retenir sur la plateforme, avec peu importe la vidéo qui soit, c'est un échec pour eux. C'est pour ça que TikTok a le succès qu'il a. C'est qu'il a réussi à débarquer et à vous garder une heure, deux heures sur l'application, sur votre téléphone, sans que vous puissiez ne serait-ce que vous en rendre compte. Et c'est ça qui fait que, ça, c'est un mot encore anglais, mais c'est tu donnes du temps. Que c'est, vu que tu n'as pas d'argent, et ben, tu donnes du temps. Et ben, le temps est précieux, plus précieux que l'argent, plus précieux que c'est ce que vous avez de plus précieux. Et quand un réseau social arrive à vous prendre de votre temps, vous, de votre côté, soyez juste assez intelligent pour donner votre temps à un truc qui va vous aider, vous, et à vous apporter quelque chose. Et sauf que les gens, aujourd'hui, ils donnent du temps à quoi ? Comme on a dit tout à l'heure, ça scrolle sur TikTok, ça regarde des trucs un peu drôles, ça se diversifie un peu, mais c'est pas des vidéos qui vont leur apporter peut-être un peu d'intellect, un peu de quelques pistes pour aller se former ailleurs.
Les gens donnent du temps au capitalisme mondialisé, il faut dire les choses. C'est ça qui est dingue.
Bah, oui, bien sûr, bien sûr. C'est toujours, les grands médias ont toujours la force de la portée et la force de la production et du professionnalisme, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc, quand tu regardes un truc un peu drôle qui passe, deux chroniqueurs qui se clashent, deux trucs, tu sais, des trucs un peu drôles, une vidéo un peu humoristique, c'est plus facile à regarder que quand nous, on propose un contenu un peu plus costaud, il y a des mots compliqués, il y a des... Tu dis, oh non, c'est bon, ça va me barber, c'est bon, ça va me saouler, j'ai pas envie de regarder ça maintenant. Déjà, je suis pas d'humeur, j'ai fait une journée de boulot, je suis fatigué. Allez, mets-moi un truc pour que je rigole un peu. Donc, forcément, les mecs, quand ils arrivent à 17, 18, 19 heures, il y a quoi à 18, 17, 19 heures ? Que du divertissement. Regarde bien la programmation. Hein. Si tu regardes bien, entre 19 heures et 22 heures, il y a quasiment que du divertissement. Il y a quasiment que du. Pour M6, Île de la Tentation, Qui veut être mon associé, Cauchemar en cuisine, Touche pas à mon poste, enfin qui maintenant a changé de nom. T'as cette fourchette qui est exceptionnelle parce que les gens veulent voir du divertissement. Mais un reportage à 19h, tu verras que tu feras pas de vue. Un reportage à la télé sur TF1, un reportage un documentaire un peu sérieux et tout sur un fait historique, tu verras que en termes de spectateurs, il y aura rien. Mais du foot, ah, tu pètes les scores.
Tout ça est ultra étudié, il faut dire les choses.
Bah, bien sûr. C'est pour ça que si vous regardez la télé à le matin, en général, il y a soit du dessin animé pour les enfants, s'ils sont sympas, soit il y a des trucs genre téléachat, des trucs, tu sais, il faut gagner un peu d'argent, il faut appeler, et puis tu devines la chanson, et puis on te donne 1000 balles, tu vois. Des trucs comme ça, le matin. Quand tu regardes à midi, tu as des infos. Et puis après, entre 14h et 16h, 17h, il n'y a que des programmes les pourris. Parce qu'il n'y a personne qui regarde la télé à ce moment-là. Donc forcément, ils te mettent des téléfilms, des trucs qui datent, juste pour occuper la case, quoi. Parce qu'ils savent que les annonceurs n'achètent pas les cases à ce moment-là. Toi, tu es une marque. Tu es Nestlé. Tu veux promouvoir ta prochaine gamme de café, de céréales ou de ce que tu veux, tu ne vas pas prendre la case de 14h. Tu vas prendre la case de 19h, 20h, 21h. Et si tu prends cette case-là, elle va te coûter cher. Et si ça te coûte cher, c'est parce que l'émission, elle est regardée. Et pourquoi l'émission, elle est regardée? Parce que c'est du divertissement. Donc, en général, quand tu vas acheter une case pour Touche pas mon poste ou Île de la Tentation ou Qui veut être mon associé ou ce genre de choses, bah, tu payes paquet. Hein. Moi, j'ai vu les prix des fois d'espace, certains spots de pub de 15-20 secondes. Ça montait à 50, 60, 80 000. Costaud.
Ah, c'est sûr, c'est sûr. Mais voilà. Tout ça, il faut comprendre, il faut que les gens le comprennent, parce que le système ne vous embrigade pas par hasard, et le consumérisme capitalisme réussit pas par hasard. Ils ont étudié nos cerveaux. À l'époque, Patrice Lelay, qui était l'ancien PDG de TF1, disait « Mon métier, c'est d'occuper la place disponible dans le cerveau des gens pour Coca-Cola, etc. » C'est ça, en fait.
Bien sûr. Parce que lui, il est payé par les marques. Lui, il est payé par les pubs, par la marque et par le fait de... Lui aussi, il a des coûts de production. Mais c'est juste qu'il est payé plus que nous. Parce qu'il y a la pub, il y a les grandes marques et ils ont des positions fortes.
Donc, quelle doit être notre stratégie ? Quelle doit être la stratégie, justement, pour supplanter ce système-là ? À part faire de la forme.
C'est compliqué parce que c'est en termes de financement, on n'a pas la même chose qu'eux. Et c'est dur. Quand tu n'as pas le même financement, le même argent, logiquement, tu ne peux pas produire pareil. Si tu veux, aujourd'hui, par exemple, si j'ai envie de faire une émission hyper divertissante avec trois humoristes et qu'on rigole bien, bah déjà, il faut que j'ai le numéro de trois gros humoristes. Ce qui est déjà compliqué. Je peux en avoir un, mais avoir les deux autres, c'est compliqué. Il faut que je les réunisse dans un endroit sympa. Donc, un studio, un plateau... qui coûte de l'argent.
Et pas en province.
Et pas en province, parce que sinon, ils ne viendraient pas. Il faut que je prenne en charge peut-être les frais de déplacement ou les frais de... Voilà, les trucs pour qu'ils viennent, quoi. Et derrière, il faut que l'émission soit bien produite, en direct. Il faut plusieurs caméras, il faut plusieurs personnes qui bossent, parce que ce n'est pas comme un podcast où tu poses tes caméras sur trépied et ça marche. Non, il faut que ce soit des gens derrière, donc des salariés ou des freelances ou ce que tu veux, mais il faut qu'il y ait du monde. Donc, en fait, l'émission, elle coûte cher. Tu sais, tu viens tout de suite dans un... Tu rentres tout de suite dans un truc et même malgré tout ça, tu ne passeras pas à la télé. Cette émission, elle passera uniquement sur YouTube ou sur TikTok ou sur les réseaux...
Et peut ne pas marcher.
Et peut ne pas marcher, en
si
plus.
Si elle n'est pas bien communiquée, c'est ça, en fait. Faut dire les choses.
Exactement.
Parce qu'il faut
exactement.
Dire aussi une chose, c'est que YouTube, c'est ce qu'il y a de plus dur.
Bien sûr.
C'est beaucoup plus dur que TikTok et tous les autres ou Facebook parce que YouTube, c'est une vue... qui peut durer une demi-heure.
C'est ça.
Et donc, c'est ce qu'il y a de plus dur.
Ah, bien sûr, parce que YouTube, tu sais, tu ne scrolles pas sur YouTube. Tu choisis ta vidéo. Et selon l'algorithme où tu es déjà dedans, limite. Si tu es déjà dans les podcasts et que tu regardes les contenus un peu comme ça, tu as beaucoup plus de chances de tomber sur moi que si, en général, tu regardes que du sport. Si tu regardes que du sport, peut-être qu'avec un peu de chance, tu tomberas sur un podcast que j'ai fait avec un sportif. Qui est dans ton cercle, si tu regardes un peu de foot, si j'ai fait un podcast avec un footballeur, peut-être que tu vas tomber dessus. Mais si j'ai fait un podcast avec Dieudonné, tu ne tomberas pas dessus.
Mais c'est là, tu vois, où c'est compliqué. C'est parce que, regarde, à l'époque, les générations télé, ils avaient le choix entre 6 chaînes. Bon, même 5. Même 5, tu vois. Donc voilà, oui. On regardait parmi les 5 chaînes. Aujourd'hui, avec le biais de l'algorithme, les gens sont enfermés dans des communautés. D'ailleurs, on parle souvent de communautés. Et je le remarque dans la vraie vie. C'est-à-dire que il y a quelqu'un, il aime, voilà, tu as dit le sport ou le foot particulièrement, par exemple, il n'aura que du foot. Et il ne saura rien d'autre. Et il sera du communauté PSG, par exemple. Et il sera que PSG, communauté PSG, et le reste, ça n'existe pas.
C'est dingue, il faut naviguer, il faut forcer la navigation, voilà. Il faut quand vous êtes
et donc,
sur le truc. Ouais.
Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça crée des gens qui, dorénavant, ne vivent qu'en communauté. Et parce qu'ils ne vivent qu'en communauté, ils pensent être ultra majoritaires dans la société. C'est ça, hein?
Moi aussi.
Parce que les gens se disent, ah ouais, mais moi j'adore le PSG, toute la France adore le PSG. C'est ça, parce qu'ils voient que... Parce que moi, voilà, je parle qu'avec des gens qui parlent du PSG, je consomme que des émissions du PSG, donc voilà, je n'ai que ça, en fait.
Bah oui, et l'algorithme, voilà. Ça sert que ça.
Et donc, les gens se disent, ouais, mais attends, je sais pas, je comprends pas, je parle aux gens, tout le monde adore le PSG. Et quand tu vois un mec de Marseille, tu te dis, ah, mais c'est quoi ça? C'est pas possible. Et donc, et c'est dans tous les sujets. Et c'est ça le problème. C'est que moi, je remarque une chose, à cause des réseaux sociaux, dorénavant, les gens s'enferment essentiellement dans des cases. Premièrement, ils ne supportent plus la contradiction. Il y a plus, alors, c'est fini. C'est-à-dire que si moi, demain, là par exemple, là, je fais une émission Radio Courtoisie, si toi et moi, dans l'émission, on va dire un truc qui ne plaît pas à un auditeur, on va dire hey, « Hé, connard, c'est bon, je ne te regarde plus. » Mais c'est vrai, hein. C'est vrai.
Non, mais c'est
des réalités.
Ah oui, c'est ça.
Et on va... Oui, imaginons, il y a quelqu'un qui écoute que Radio Courtoisie, il va croire que Radio Courtoisie, c'est TF1. Voilà. Et ça aussi, c'est un vrai problème. Parce que les gens, dorénavant, sont enfermés essentiellement avec des gens qui leur ressemblent et ils ne veulent plus voir des gens qui ne leur ressemblent plus. Je ne sais pas si tu as vu ça, toi aussi, comme développement, comme évolution de la société.
On le voit surtout quand j'interviewe des personnes, comme tu l'as dit, Alain Soral, par exemple, c'est des gens qui aiment Alain Soral. Il n'y en a pas un qui va dire « Ouais, non, ça, je ne suis pas trop d'accord. » Voilà, mais il va attirer que les gens qui l'aiment lui. Ils vont regarder et puis ça va s'arrêter là. C'est-à-dire qu'ils sont, dans Alain Soral, ils sont dans ce petit cercle-là. Ils vont regarder que ce contenu-là. Si derrière, j'ai proposé un truc un peu sympa avec un autre mec qui parle d'un autre sujet, ils ne vont pas forcément avoir la curiosité d'aller regarder. De dire, bah, attends, là, c'est ça aussi où tu es limité. Si tu, on l'a dit avec Youssef Indy, si tu regardes que des vidéos sur Internet ou dans ta vie en général, tu seras toujours bloqué par quelque chose qui s'appelle soit l'algorithme, soit les recommandations. Mais en tout cas, comme tu l'as dit, tu vas rester dans un petit cercle un peu bloqué où tu vois toujours la même chose et au fur et à mesure du temps, bah, tu as l'impression que c'est ça la vérité, quoi. Et ça change pas.
Justement, tiens, comment toi, tu choisis tes invités?
Je cherche des gens qui intéressent le public et qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai vu Youssef Indy, Youssef Indy, c'est un mec qui m'intéressait parce qu'il avait une façon très calme de débattre sur Internet. Il avait une façon très calme de proposer les sujets, très factuel. Et je me suis dit, attends, pourquoi pas inviter ce mec-là dans un format un peu plus podcast, interview, un peu en 4K et tout, pour proposer ça au plus grand monde. Et ça a marché, puisque les gens ils ont dit, ah, on découvre Youssef, c'est sympa, on connaissait pas. Ah, il a écrit des livres. Ah, peut-être, tu sais, même s'il y en a, il y a une, deux ou cinq personnes qui commandent un de ses livres et qui lit quelque chose de lui, c'est une victoire déjà. J'ai réussi à faire lire quelque chose à quelqu'un à partir d'une vidéo. C'est ça le but. C'est d'avoir des gens qui on a un humoriste par exemple qui va sortir bientôt. Je veux aussi faire rire un petit peu parce qu'on est il faut rire un petit peu, il faut se divertir un petit peu, mais il faut aussi se former. Parce que si on ne se forme pas, comme tu l'as dit, à 25 ans, on n'arrive pas à répondre à une interview parce que on manque de mots, de vocabulaire, de sens critique, d'information.
C'est sûr, et il faut surtout pas compter en l'école républicaine pour former les gens, quoi.
Malheureusement, non. Et puis même, j'ai déjà remarqué qu'il y avait des œuvres qu'on lisait quand on était petit au collège, mais qui n'étaient pas en accord avec notre intelligence de l'époque. Quand, par exemple, tu sais, on lisait les fables de La Fontaine, on ne les comprend pas de la même façon quand on les lit maintenant, à 30 ans passés, que quand on les lisait à 12, 13 ans, quoi. Donc, il faut se réintéresser à ce qu'on a pu voir. Ce qu'on a vu dans l'histoire, la guerre mondiale, etc., faut se remettre dedans. Et c'est un effort, en fait. Parce que si cet effort, tu ne le fais pas, tu as juste des petites informations qui te restent un petit peu de ton collège, de ton lycée. Et derrière, si tu gardes que des petites choses, il faut se remettre dedans. C'est intéressant de se remettre dedans parce qu'on redécouvre des choses.
Est-ce que les gens ont envie de refaire cet effort aujourd'hui?
Pas pour tout, en tout cas. C'est sûr, pas pour tout. Ils ont une validation, un truc, ils se sont mis dans la tête une matrice et ils veulent pas en sortir parce que pour eux c'est ça la vérité. Comme tu as dit, la contradiction, il faut aussi aller la chercher. Parce que si tu cherches que des mecs qui sont d'accord avec toi, vous allez rester entre vous, hein. Ça va être une petite communauté, tout le monde est d'accord et puis on cherche pas le débat, on cherche pas la confrontation, on cherche pas le...
Ouais, mais justement, les gens aiment leur zone de confort. Parce que déjà, peut-être que la vie est trop dure pour beaucoup. Et donc, autant rester dans sa zone de confort sur un monde virtuel.
C'est pour ça que j'en veux pas forcément aux gens, parce que quand tu fais j'ai déjà été dans le salariat, moi, avant. Salariat vraiment pur et dur, dans le sens où j'étais avant d'être vidéaste. Eh ben, c'est sûr que quand tu es dans le salariat et quand tu rentres le soir après 8 heures de boulot, entre les transports, que tu aies pris les voitures ou les transports ou le reste, quand tu travailles du lundi au vendredi, du lundi au samedi, avec très peu de temps de repos, bah, tu n'as pas forcément envie de te poser devant une émission qui va encore te mettre 2 heures, 2h30 d'informations, de dialectique, de propositions, de lectures à faire. T'as juste envie de te libérer la tête, de regarder un truc divertissant, de rire, de regarder une série, de regarder un film, mais sûrement pas d'aller regarder Tim Assil ou GPTV ou un truc et essayer d'ouvrir encore. Et ça fatigue, hein.
Mais tu sais, le grand problème du salariat, moi, je vais te le dire, c'est même pas l'heure, le transport. Bon, évidemment, ça, c'est un problème. Mais c'est qu'en fait, la plupart des gens, ça, je l'ai remarqué du fait de mon travail, tu vois, la plupart des gens, pour pas dire 90% des gens, ou voire plus, travaillent dans des choses, dans des métiers
Ils aiment pas.
qu'ils n'aiment pas, qui ne les intéressent pas et qui ne les épanouissent pas.
Bien
Et
sûr.
90% des gens travaillent dans des métiers. Aujourd'hui, je parle, hein, je parle pas il y a 30 ans, 40 ans, etc. Ils travaillent dans des métiers alimentaires essentiellement. Et donc, forcément, tu es beaucoup plus fatigué parce que certains m'écoutent et me disent: oui, mais nous, on a travaillé 45, 50 heures en 70, 80.
Oui,
Oui, c'est vrai.
c'est
Mais
vrai.
peut-être que vous avez des métiers que vous aimiez, peut-être des métiers passion, j'en sais rien. Voilà. Aujourd'hui, les gens travaillent dans des métiers au SMIC. Parce qu'à l'époque, les SMIC, c'était 2% des salariés. Aujourd'hui, c'est 25% de SMIC. Et ils travaillent dans des métiers, soit des métiers qui servent à rien. Il y a énormément de métiers dans le tertiaire qui ne servent à rien. Mais je veux dire, si le gars est pas là, c'est pas grave, hein. Ça tourne quand même l'entreprise, hein. Il y en a énormément qui travaillent dans des collectivités locales, dans des métiers aussi qui ne servent à rien. Voilà. Et donc du coup, ça, savoir, en plus, se dire je ne sers à rien en tant que métier, et en plus c'est un métier que je déteste, c'est ultra fatigant, faut dire les choses.
Bien sûr, tu vas contre ton cerveau et contre ton corps en fait. Et tu vas contre ton propre consentement par rapport à l'argent. Donc c'est sûr que c'est dur, hein. Et c'est sûr que t'as pas forcément envie de parler derrière de politique, d'essayer de t'ouvrir à des idées, de lire des livres un peu compliqués, de chercher des mots quand tu les comprends pas. C'est tout un travail. C'est-à-dire que quand j'ai lu, par exemple, le livre d'Alain Soral, parce qu'on m'a dit, attends, c'est un fou et tout, je me dis, attends, je vais lire son livre quand même. Bah, c'est sûr que le livre, si tu le lis et que tu comptes sur tes propres connaissances pour le comprendre, ça marche pas. Il faut faire des recherches. Il faut faire des recherches, il faut annoter des choses, il faut chercher des mots de vocabulaire que tu n'as pas compris, vérifier les idées, parce qu'il dit des choses et qu'après, il faut les vérifier derrière. Heureusement, on a l'IA et tout qui permet d'aider un petit peu et de trouver les sources plus facilement, mais ça demande un travail. Donc, dis-toi que le mec qui fait un job alimentaire pour nourrir sa famille, il rentre, il a deux, trois enfants qui l'attendent, il doit passer un peu de temps avec ses enfants, il doit passer un peu de temps avec sa femme, il doit se divertir un petit peu, peut-être faire un peu de sport. Parce qu'il n'a pas pu. De toute façon, il travaillait toute la journée. Donc, s'il veut se maintenir un petit peu physiquement et ne pas sombrer dans une dépression, il faut qu'il fasse un peu de sport. Donc, si tu combines un peu tout ça, bah, c'est sûr que le peu de temps qui te reste, tu ne vas pas, entre guillemets, t'emmerder à regarder un truc où tu as de nouveau besoin de concentration, besoin de te remettre dedans et de comprendre des choses. C'est pour ça que c'est très important de vulgariser au maximum. Les podcasts, par exemple, c'est quelque chose qui permet de vulgariser. Les
Mais
vidéos.
justement, tes podcasts, c'est quelle
Oui.
tranche d'âge qui te regarde?
Franchement, j'ai toutes les tranches, mais j'ai une grosse majorité de 24-45, on va dire. Et
D'accord.
c'est exactement eux qui m'intéressent. Parce que c'est des gens qui ont non seulement le pouvoir d'achat, mais le pouvoir de changer les choses. C'est des gens qui peuvent, par leur travail, par leur vote, par leurs actions, par leur militantisme, on va dire, changer les choses. Ne serait-ce que, voilà, dans leur, il faut que chacun prenne ses responsabilités. On peut pas tout faire pour tout le monde. On peut donner des idées, on peut essayer d'être dans le paysage médiatique, essayer de se professionnaliser, de proposer quelque chose d'intéressant. Mais si on n'a pas cette communauté qui vient nous soutenir et s'intéresser à ces choses-là et changer les choses dans leur environnement, on va juste en fait rester dans une contestation sans impact réel. Pour avoir de l'impact, faut que la communauté, comme tu as dit, qui te suit et qui adhère à tes idées, les propage. Parce que sinon, on reste entre nous, quoi. Parce que sinon, nous aussi, on a un divertissement. On regarde le podcast d'Alain Soral, on rigole quand il parle des femmes et tout. Mais quand il parle de géopolitique d'Iran ou de ce qui s'est passé entre la Palestine et Israël, bah, c'est sûr que si tu restes aveugle et que tu fais rien, il n'y a rien qui va changer. On sera aussi dans du divertissement, dans du truc un peu sympa. Voilà, Dieudo, c'est pareil. Dieudo, le podcast, il est super marrant, mais il dit plein de choses sur la spiritualité. Il dit plein de choses sur les dégâts de l'alcool, sur les dégâts de toutes ces choses-là. Si tu ne retiens pas de leçons et que tu vas pas mettre toi aussi ton effort dans ton propre changement, ça ne change rien. Et ça ne change rien. C'est pour ça aussi que, comme tu l'as dit, la société, elle est un peu anesthésiée. Parce que même si on regarde les vidéos, même si on regarde du contenu, on lit des livres et tout, et une fois qu'on sort de chez nous et une fois qu'on est dans notre travail, c'est fini. On a oublié un petit peu ce qu'on s'était dit.
C'est clair. Merci à toi, cher Tim Assil. Tim Assil, retrouvez-le sur YouTube ou encore sur TikTok.
TikTok, Instagram, YouTube. Assil, c'est mon prénom, donc c'est pour ça que ça s'appelle Tim Assil. C'est une petite équipe, une petite communauté qu'on a montée. Donc voilà.
Ton prochaine interview, c'est quand? C'est qui?
On a sorti, j'ai fait un épisode de mon émission React à Show où on analyse l'actualité. Et bah justement, c'est Alain Soral l'invité.
Oh bah excellent. Donc voilà, retrouvez Tim Assil sur YouTube avec prochain invité Alain Soral. Merci à vous d'avoir été si nombreux. Merci beaucoup. Passez un excellent samedi. On se retrouve samedi prochain, même endroit, même heure. Allez, salut, ciao.
Vous venez d'entendre Les Controverses dirigées par Mike Borowski, diffusées en direct sur Radio Courtoisie samedi 21 février 2026 de 10h30 à midi et réalisées par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.